C'est la deuxième heure de ce Sweet Home Chicago numéro 1101. Juste après Little Bob, on aura Amaury Fèvre. Et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à Amaury sur le Facebook Sweet Home Chicago. Voici un des titres que Bob dédicace à sa Mimi. Ça s'appelle Made for Me.
Country, I crossed my life waiting for you, and we passed the times to live as it comes, found in some poor love before we met. I live a life full of mistakes, but I've learned so much waiting for you. Time was something shrunk in my heart. Time was running away for me, but I had something strong in my heart. Other with passion and tenderness, bury your gun, taking my heart with you. Now I'm feeling alone, like a broken Swiss soul. Time was running away for me, but I had something strong in my heart. Time was running away for me, but I had something strong in my heart.
Voilà, et pour d'autres détails, vous pouvez vous référer à l'émission de la semaine dernière, toujours disponible bien sûr sur le podcast ou sur le Mixcloud Sweet Home Chicago, avec cette interview de Little Bob, une interview de 50 minutes composée en plusieurs parties, puis également ponctuée, j'allais dire, de titres, extrait de We Need Hopes, ce tout nouvel album est absolument somptueux, disque du mois pour Sweet Home Chicago. Voilà, on poursuit avec notre invité Amaury Fèvre, qu'on va peut-être pour vous découvrir à travers un premier extrait. L'album s'appelle 2020. Voici Wrong Girl.
Family and friends had to leave that behind. Backed up his things and clothes, flipped a coin to nowhere to spend the night with his girlfriend before he hit the road in the gloom. He'd been walking when the sun came out. 20 more he'd been struggling before the first highway shot. Asks for a coffee and a breakfast, everything goes too well. And then a man comes in the shop and a sudden shout like, hell, hey, young man, you've been messing with the wrong girl. Babe,
the stone hit the head. Run through the back door of the shop. 20 miles had been running to leave this county behind. Ahead of him was a city. We had a sign, you like, get out of here. Cause he'd been messing with the wrong girl.
Titre magnifique, album magnifique de Amaury Fèvre. Ce titre, c'était Wrong Girl. On va en parler avec Amaury. Amaury au téléphone. Je ne sais pas si on t'entend bien.
Oui, je pense que oui.
Ah, bonjour Amaury. Très heureux de pouvoir te parler. Tu te trouves actuellement dans ta région, j'imagine, en Haute-Savoie, c'est ça?
C'est ça, exactement, à côté de Genève, en Haute-Savoie, ouais.
Je vais me permettre, Amaury, de te présenter brièvement, puis surtout, tu m'arrêtes dès que je dis une bêtise, parce que oh, ça va forcément arriver. Amaury Fèvre, donc tu es né à Besançon?
Oui.
Et tu résides dans la ville de Vulbens, je ne sais pas si je prononce bien le nom de ta commune.
À côté, voilà, oui, c'est ça.
À côté de Vulbens, ouais. En Haute-Savoie, voilà, une commune de 1600 habitants, à une vingtaine de kilomètres de Genève, puis pas loin d'Almas aussi, je pense.
Voilà, exactement, c'est ce coin-là, ouais.
Il se trouve que tu chantes, tu joues de l'harmonica, tu joues du banjo, du dobro, de la mandoline, de la guitare, mais aussi, paraît-il, de la contrebasse et de la basse, même si ce n'est pas le cas sur l'album. Et tu viens d'enregistrer dans ton home studio, qui s'appelle le Studio du Four, ton troisième album. C'est ça?
C'est exactement ça. des bonnes sources.
Ah, bah écoute, j'ai essayé de prendre les meilleurs. Est-ce que tu peux nous dire, tout d'abord, Amaury, comment tu es arrivé à tomber dans la marmite du blues, du ragtime et du country folk? Il y a aussi du jazz dans ton approche musicale, même si ça tombe pas forcément dans cet album. Comment tu es arrivé dans cette marmite, Amaury?
Eh bien, en fait, j'ai commencé l'harmonica tout petit. Et quand on apprend l'harmonica, on est obligé de passer par le blues, en fait.
Ouais.
Et donc voilà, j'ai commencé beaucoup avec le blues, j'avais 8 ans quoi. Et puis tout de suite ça m'a plu, ce côté libre d'improvisation, de langage simple mais qui va toucher directement l'émotion. En fait j'ai trouvé ça super super attirant quoi, et puis j'ai continué tout le temps à faire ça en fait.
Et donc, obligé par le blues, j'allais dire, il y a aussi des harmonicistes dans d'autres styles quand même. Il y a, par exemple, la country music, il y a de grands, grands harmonicistes dans la country. Et encore, je ne te parle pas du rock'n'roll, mais le blues, voilà, musique incontournable pour l'harmonica. C'est vraiment ce que tu penses?
Ben oui, parce qu'en fait, c'est vraiment, dans le groupe de blues de base, il y a un harmoniciste. Il n'y a pas un autre style de musique, en fait, où l'harmonica est nécessaire à ce point.
Mm-hmm.
Et puis après, ça me correspondait bien, quoi, ce côté d'expression, beaucoup de liberté, beaucoup d'improvisation. J'ai vraiment aimé ça. Et puis l'histoire de l'esclavage, comment le blues est né aussi, ça m'a vraiment touché quand j'étais jeune.
Voilà,
et encore maintenant, donc
ouais, l'histoire du blues.
Je suis un petit peu bloqué à ça, quoi.
L'histoire du blues, peut-être une approche ethnomusicologique de cette musique, historique également, sociologique peut-être.
Bah oui, en fait, c'est intéressant parce que moi j'ai fait vraiment toute mon adolescence en fait avec le blues, et puis du coup j'ai regardé plein de films, j'ai lu pas mal, j'ai vu des photos, des choses comme ça, et puis quand j'ai eu l'occasion d'aller à Memphis, en fait c'est bizarre parce que j'avais l'impression d'être chez moi, j'ai l'impression que je connaissais les rues, c'est très étonnant, quoi. Un peu comme quand on va à New York et puis on se rend compte qu'on connaît parce qu'en fait on l'a vu dans les films, quoi.
Ah oui, d'accord. Qui sont les artistes qui t'ont poussé vers cette musique, Amaury?
Eh ben, assez vite, en fait, j'ai beaucoup aimé Sonny Terry, Blondie McGee.
D'accord.
Et puis Little Walter, Sonny Boy Williamson. Pour les guitaristes, Johnny Hooker, Muddy Waters, c'est vraiment les classiques, quoi.
Les classiques, que ce soit en termes d'harmonica ou de guitare. L'harmonica d'abord, tu nous l'as dit. La guitare, c'est venu ensuite. Comment est née cette rencontre avec la six cordes?
Eh ben, donc mon père est guitariste, donc il y avait de toute façon une guitare à la maison.
Ah, voilà.
Donc le parallèle est vite fait.
Ouais.
Et puis en fait, en tant qu'harmonicien, je me suis rendu compte qu'on joue très peu, en fait, dans un set. Et puis du coup, j'ai eu envie d'augmenter un peu mes skills, comme on dit, pour faire un peu de guitare. Et puis le chant, c'est la même chose, en fait. Je me suis rendu compte que je pouvais faire des deuxièmes voix dans les groupes où je jouais. Et puis après, voilà, petit à petit, on fait son chemin, puis on avance, quoi.
Tu nous as parlé d'influence en termes de guitariste et d'harmoniciste. Et pour le chant, alors, qui est-ce qui avait ta préférence au moment où tu as découvert le blues?
En fait, c'est intéressant parce que je m'intéressais assez peu au chant jusqu'à assez récemment.
Ouais.
J'ai vraiment chanté comme un instrumentiste, en fait, au début. C'est-à-dire, quand c'était juste, ça me satisfaisait, sans vraiment faire attention. Et puis, c'est plus récemment, en fait, que j'ai vraiment, vraiment travaillé ça. Et puis, il y a des gens que j'adore, en fait, je sais pas, comme Eric Bibb, Kemo.
Voilà,
ou des gens même comme John Mayer, Alicia Keys, des gens un peu plus récents.
Belle référence, Eric Bibb notamment, effectivement, ou Kemo. J'ai des questions par rapport à l'album que tu sors. Là, c'est ton troisième album. Moi, je découvre, hein, je ne connaissais pas tes productions précédentes. Je voulais savoir d'abord qu'est-ce qui différencie cet album, qui s'appelle 2020, de tes enregistrements précédents.
Eh bien, justement, dans cet album, c'est vraiment plus focalisé sur le blues, et puis vraiment le blues rural des années 30-40, même si je le fais à ma manière. Et puis, du coup, il y a un petit peu de gospel, il y a un petit peu de folk, de ragtime. Voilà, la guitare s'est jouée tout au doigt, en fait, contrairement aux autres albums qui étaient un jeu plus classique, blues rock, je dirais. Puis voilà, en fait, il n'y a plus trop la touche jazz qu'il y avait dans le deuxième album. Il n'y a plus trop le côté électrique qu'il y avait dans le premier, en fait. C'est vraiment un album pur acoustique, blues, quoi.
Un premier album plus blues rock, un deuxième album plus jazz. Est-ce qu'on peut se les procurer, ces enregistrements-là? Ils sont toujours disponibles quelque part?
Oui, exactement, ils sont sur mon site, amaurysf.com, en fait, les trois albums sont disponibles. Le premier est juste en version téléchargement, là, on n'en a plus en version physique, mais les deux autres sont en version physique ou téléchargement, comme vous préférez.
Alors, tu dis, on n'en a plus, et pourtant, tu fais pratiquement tout dans cet album, l'album qui nous occupe aujourd'hui. Tu fais du chant, de l'harmonica, bien sûr, de la guitare, de la mandoline, du banjo, des percussions, mais aussi les paroles, la production, l'enregistrement, le mixage, le design de la pochette. À qui est-ce que tu dois le peu de reste dans tout ce travail?
Eh bien, en fait, oui, c'est vrai que sur ces albums, j'ai tiré parti de. J'ai eu envie de faire beaucoup de choses moi-même. Il y a le mastering que j'ai pas fait, parce que j'avais vraiment envie d'avoir une oreille externe, en fait, quelqu'un qui peut vraiment me guider sur des choses que j'aurais pas vues, parce que j'étais vraiment tout seul.
On peut expliquer, excuse-moi, faire une petite parenthèse à Maury, par rapport au mixage et au mastering, c'est pas forcément des mots qui parlent à tout le monde. Le mixage, bon, c'est le travail, effectivement, de mélange de tous les instruments et de hauteur de volume, pour simplifier, mais le mastering, c'est quoi par rapport à ton travail à toi?
Alors, en fait, le mixage, c'est l'étape où on prend chaque instrument, chaque piste, chaque micro qu'on a enregistré, et on les fait sonner tous bien ensemble. Et puis l'étape du mastering, c'est on fait sonner tous ces morceaux d'une manière cohérente les uns par rapport aux autres, et d'une manière cohérente par rapport aux autres sorties d'albums qu'on peut trouver dans le commerce, en fait, ben, voilà, pour se placer, en fait, au niveau du son, dans l'esthétique qu'on a envie de donner.
Voilà, Amaury Fèvre, pour revenir sur cette question, à qui tu dois le peu de reste, une question subsidiaire, qui est Marius Fèvre qu'on entend dans Pouring Rain?
Eh bien, c'est mon fils.
Je m'en doutais un petit peu, figure-toi.
Oui, c'est ça, oui. Il a 4 ans et demi, et puis du coup, il adore cette chanson, et puis elle est écrite un peu pour lui, parce que c'est la chanson d'un père qui il pleut à verse, et puis en fait, il a son fils, son gamin, qui a vraiment envie d'aller jouer dehors. Et puis, ben, on sent qu'il n'a pas du tout envie. Puis, en fait, il se rend compte que c'est quelque chose de super, en fait.
On va en écouter un tout petit extrait, si tu permets. We're playing outside in the pouring rain. We're playing outside in the pouring rain. Me and my kid just like old friends. Playing outside in the pouring rain. It's
raining like I never saw before. The frogs don't dare to face the storm. Gonna be a daddy day by the fireplace. But as we play, my boy's getting mad. He's screaming like he's about to die. I don't know what I did. I sure don't like the face. I ask him why he's being so mean. He says I wanna shoot the coffee machine. I can see nothing's wrong with the letter. And I see regular glances to the window, to the garden. Ain't no way for me to go down there. So we'll play outside in the pouring rain. We'll play outside in the pouring rain. Playing outside in the pouring rain. Me and my kid just like old friends. We're playing outside in the pouring rain. You know reason out is impossible, and going outside inevitable. What a stupid thing to do in November. I said we go outside, we're gonna catch a cold. Or even worse, mama gonna be scold. But he said no, I won't outside with you. So we're playing outside in the pouring rain. We're playing outside in the pouring rain. We're playing outside in the pouring rain. It's me and my kid just like old friends. We're playing outside in the pouring rain.
Voilà, Pouring Rain, on est toujours au téléphone, en direct avec Amaury Febvre. Amaury, toujours là ?
Toujours là.
C'est ton petit garçon, donc Marius, qu'on entend dans ce titre. Qui est Vilma ?
Eh bien, c'est mon épouse.
Et voilà, c'est un petit peu fait en famille, tout ça. En fait, le studio du four, c'est chez toi, non ?
Alors, c'est pas presque. Chez moi, vraiment exactement, mais c'est une maison où j'habitais avant. Mm-hmm. Et puis du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez familial, ouais.
Alors, par rapport toujours à la fabrication de cet album, je vais savoir qu'est-ce que a fait Christophe Losberger pour toi, prendre des photos, les photos des instruments. Quel était son travail ?
Eh ben oui, Christophe, il a fait en fait les photos qui se trouvaient à l'intérieur du livret, les photos d'instruments. Et qui font le fond du livret. Et en fait, il a fait aussi un suivi vidéo tout au long de l'enregistrement de l'album, en fait, voilà. pour faire le petit clip que j'ai sorti en vidéo, une espèce de making-of de l'album, en fait.
C'est ça, en forme de teaser, voilà, pour donner envie, effectivement, aux gens d'acquérir ce disque. Il est sorti fin 2020, je crois. Hein.
Oui, c'est ça, en décembre, oui.
Voilà. Et qui d'autre t'a aidé à réaliser ce disque, Amaury ?
Eh ben, c'est un petit peu tout, en fait.
Ça y est, on a fait le tour ?
Oui, c'est ça. Il ben, y a Luc Naville de BNB Photographie, qui a fait la photo de face, quoi.
D'accord, la pochette, ouais.
Voilà. Et puis, après, voilà, c'est tout. Après, c'est des rencontres, les gens avec qui on discute, et puis ça nous guide, et puis des choses comme ça. Mais c'était assez un album introspectif, et donc, du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. C'est pour ça que je l'appelais 2020 aussi. Mm-hmm. C'est que j'ai passé vraiment beaucoup plus de temps qu'on pourrait passer habituellement sur un album. J'ai vraiment pris du temps pour enregistrer, faire ce que je voulais, et puis même retravailler beaucoup le chant, beaucoup les choses comme ça pour...
Tu parles du temps que la crise sanitaire nous a laissé au printemps 2020, en fait, hein ?
Voilà, exactement. Ouais. À partir de là, en fait, tous les concerts sont arrêtés. Et puis, du coup, je me suis dit, là, j'ai le temps.
Voilà, et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, en fait, c'est ça qu'on peut se dire. Il y a eu pas mal de gens qui ont pris de bonnes résolutions, enfin bonnes ou moins bonnes, hein, ça dépend de la vie de chacun. Voilà, oui, ça a été profitable dans ton cas, Amaury, hein.
En tout cas pour cet album, voilà, ça a été profitable. Après, ça reste une catastrophe pour la culture en général.
Bien entendu.
Je sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est vrai que ça a permis à beaucoup d'artistes, je suis pas le seul, heureusement, de vraiment passer du temps en studio pour sortir des choses, quoi.
Amaury Febvre, quelles ont été tes sources d'inspiration pour cet album 2020 ? Est-ce que tu pourrais parler de quelque chose de non vécu dans tes chansons ?
Je sais pas, au niveau des textes, donc tu parles.
Tout à fait.
C'est dur à dire, en fait, pour moi, ce qui est vécu et ce qui est non vécu, parce que je pars souvent d'une émotion que j'ai ressentie, par exemple une injustice ou quelque chose comme ça, et après je la transforme, ce qui fait que les personnages existants, les personnages des chansons n'existent pas vraiment, et puis ils ont des fois des traits, mais je pars de choses que je vis, en fait, et puis ça me donne une émotion que je transforme dans une chanson, et après j'écris à partir de ça, quoi.
par rapport à ton vécu et puis par rapport aussi à la façon dont tu peux le transformer, un petit peu à la manière d'un écrivain pour un roman, non, qui s'inspire parfois de personnes qu'il côtoie ou d'histoires qu'il a entendues.
Oui, un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, de toute façon, c'est pas des choses, je dis pas j'ai envie d'écrire une chanson là-dessus parce que c'est un sujet qui me plaît. Je pars toujours d'une émotion que j'ai reçue, en fait, qui m'a mis dans un état. Après, cette émotion se transforme en musique, souvent ça part quand même de la musique. Et puis après, à partir de cette musique, voilà, j'imagine des personnages et puis une histoire, une situation. Quoi.
Je voulais savoir, Vilma, c'est pas la Wrong Girl, on est d'accord?
Non, pas du tout.
On va écouter Kind of Girl, extrait également de cet album 2020. Maury, on va se retrouver juste après, si tu veux bien. À tout de suite.
À tout de suite.
Well, she's the kind of girl, the one that doesn't stay. She's the kind of girl that's always on the way. She's the kind of girl you meet one day, the other day she's gone away. And when you're on your own, she's in your head. This kind of girl in spite of your own will, they got never angry nor afraid, a trust in life that never fades away. These girls that live with no one if we are the one I met, one I can't forget. She came to me, an angel I did not expect. And I fell in love with so much grace. I flew with her, and when I fell, I looked up and I saw her fly away.
L'album s'appelle 2020, il est signé Amaury Fèvre. On est en direct sur le 666 dans Sweet Home Chicago, 1101e émission, avec Amaury, toujours au téléphone.
Toujours là.
Et on vient d'entendre ce nouvel extrait, Kind of Girl. Et puis j'ai d'autres questions pour toi. Les sources d'inspiration, on en a parlé. Mais ben là, tu évoquais tout à l'heure Eric Bibb. Je pense que si on avait eu la voix d'Eric Bibb par-dessus ta guitare, ça aurait été parfait, quoi.
Eh ben oui, j'espère. Oui, c'est vrai qu'on est dans la même influence. Je suis content parce que j'ai réussi à lui envoyer l'album. Et donc il m'a dit qu'il a beaucoup apprécié, donc ça m'a fait très plaisir.
Pendant qu'on écoutait le morceau, il y a des auditeurs qui s'expriment sur le Facebook Sweet Home Chicago. Alors il n'y a pas forcément des questions. Si Arnaud Didier qui dit voilà, c'est l'homme de Haute-Savoie qu'on entend actuellement, effectivement. Tu évoquais Slim Harpo, il dit moi j'adore, effectivement, Slim Harpo, un des grands harmonicistes louisianais de l'immédiate après-guerre. Ronan One Man Band, que tu connais peut-être, qui est un artiste breton qu'on a passé à l'heure, qui te dit c'est excellent cette palette de style, voilà, il a l'air d'apprécier ce que tu fais. Et puis Dom Ferrer, qui est un autre artiste qu'on va avoir au téléphone, qu'on a déjà enregistré, hein, mais qu'on va avoir en interview le 1er mai prochain. Dom Ferrer qui te dit j'aimerais savoir comment se produit Amaury live.
Eh bien, alors pour le moment, c'est en solo.
En solo, voilà.
Voilà, et c'est-à-dire que j'utilise, j'ai guitare, harmonica, chant, qui sont mes trois instruments principaux. Et puis j'ai un petit stomp aussi pour rajouter un petit peu de son grave, un peu de grosse caisse. Et puis j'ai recours assez souvent en fait aux boucles qui me permettent de libérer un peu les mains, d'ajouter une piste de guitare. Voilà.
Ça rejoint une question que je vais te poser tout à l'heure par rapport au son et puis à l'authenticité dans le son. Mais avant, moi, j'avais une question par rapport à ton idée. Vu ton jeune âge, je crois pas dévoiler ton âge. On peut dévoiler ton âge à l'antenne?
Ouais,
35 ans, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Bah, je pensais un petit peu moins, mais bon, voilà. 35 ans et tu es né, en fait, j'allais dire, tu as toujours connu tout ce qui est numérique, etc. Je voulais savoir si, à l'heure où on consomme la musique au format numérique, avec des titres qui sont parfois isolés de leur contexte, est-ce que pour toi, le concept d'album est une notion importante à tes yeux, ou est-ce que le terme bouquet de chansons peut suffire?
Non, moi, j'aime bien l'album. En fait, j'ai quand même grandi avec des albums.
Ouais.
Donc en CD, voilà, qui font, je sais pas, entre 8 et 15 titres à peu près. Pour moi, c'est un bon format parce que ça a une unité, en fait. C'est vraiment un moment qu'on prend pour écouter un album. Pour moi, ça n'a rien à voir avec écouter un titre sur YouTube ou comme ça. Donc pour moi, ça reste important. Et puis en fait, pour les gens qui écoutent la musique que je fais aussi, parce que c'est vrai que voilà, le blues comme je fais, ça, c'est vraiment un public qui est en général quelques années plus que moi.
Oui, mais oui, ben complètement.
Pas toujours, mais en tout cas, voilà, moi je trouve vraiment bien cet album. Et puis, j'ai fait le choix justement de ne pas me mettre sur le Spotify, Deezer, iTunes, toutes ces plateformes-là, parce que c'est pour moi une consommation de la musique qui est pas la mienne et puis que je trouve pas très intéressante, en fait.
D'accord, ben écoute, c'est une réponse tout à fait claire, effectivement. Parlons un petit peu de ta recherche d'authenticité dans le son. Ben, ça te pousse à faire bien sûr attention aux moindres détails, comme par exemple la dureté des cordes. Mais cela ne t'interdit pas des concessions à la modernité. Tu évoquais la Stompbox pour superposer des prises d'instruments également. Tu utilises le looper pour... c'est des choses tout à fait modernes, mais qui ne sont pas du tout incompatibles avec l'authenticité du son que tu distilles.
Je pense, oui, parce que Stompbox, c'est un petit micro quand même. C'est quelque chose d'analogique. Et puis, la boucle, en fait, c'est vrai que je l'utilise, mais je fais toujours des boucles en live. C'est-à-dire que j'ai pas des choses préenregistrées que j'envoie, des choses que j'ai pu enregistrer en studio. Voilà.
C'est ça, tu commences un titre, j'imagine, avec une première grille à la guitare, par exemple, et puis que tu enregistres, évidemment, et qu'ensuite que tu repasses aussitôt. Ça nécessite pas mal d'entraînement, cette technique, non?
Ouais, c'est pas mal d'entraînement. Ben, en fait, moi, j'avais joué pendant 10 ans dans un duo qui s'appelait Electricat, et on utilisait ça vraiment tout le temps, quasiment dans chaque titre.
Ah, effectivement.
Donc j'ai été bien rodé avec ça. Et puis, moi, j'utilise vraiment comme un soutien pour des solos. Par exemple, l'harmonica chromatique, c'est un harmonica qui a une tirette. Donc, on est obligé d'avoir les deux mains libres. Donc là, pour ça, je suis obligé de faire une boucle. Et puis, j'utilise aussi pour rajouter des fois d'autres parties de guitare, mandoline, dobro, des choses comme ça, banjo.
Tu parles de l'harmonica. Tu l'utilises aussi comme un instrument rythmique. Est-ce que tu peux nous expliquer cette technique-là?
Eh bien, en fait, il y a un truc dans l'harmonica, c'est que c'est un instrument mélodique d'abord, mais il y a deux accords, en fait, qui se font dans les sons graves. L'accord de premier degré et l'accord de quatrième degré, pour rentrer un peu dans le technique. Mais avec ces deux accords, on peut faire une espèce de pompe qui nous rappelle un train. C'est un des trucs qui est classique de l'harmonica. Et puis, du coup, j'ai utilisé, en fait, dans cet album, comme des espèces de nappes d'harmonica.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas trop faire en live, mais que je trouvais vraiment joli parce que ça donne un son un petit peu d'accordéon. que je trouvais assez évocateur et puis assez intéressant, quoi.
Avec plusieurs sons, plusieurs notes en même temps et qui forment effectivement un accord. Façon accordéon, hein, c'est comme disait Jean-Jacques Milteau, l'accordéon c'est le piano du pauvre, alors je te dis pas l'harmonica.
Un peu ça, oui.
À la guitare également, il y a le finger picking, donc avec le pouce pour les graves, c'est une technique à laquelle tu sembles tenir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Eh ben en fait, c'est une technique, c'est rigolo, j'avais travaillé ça quand j'avais, entre 12 et 15 ans, quelque chose comme ça. Et puis c'est le... Après j'ai commencé à faire du jazz, et là j'ai commencé à jouer plus au médiator, et puis en fait, après dans tous les groupes que j'ai eus, je jouais quasiment tout au médiator.
Mmh.
Et puis je suis revenu avec cet album, en fait, à cette technique, y compris parce que, comme c'était un album solo, j'avais plus d'espace à remplir. Et donc, ça permet d'avoir en effet une ligne de basse, une mélodie, un élément plus percussif. Ça fait un jeu plus riche, en fait.
D'accord.
Un jeu au médiator qui est plus dynamique et plus, plus direct, en fait. Voilà, qui est super quand on veut traverser, quand on joue avec un groupe, par exemple, pour que la guitare soit bien incisive, bien présente. Mais voilà, pour un truc solo, en fait, c'est ce que faisaient tous les bluesmen de l'époque acoustique, en fait.
Mmh. Amaury, est-ce que tu entretiens des rapports avec certains instrumentistes dont la démarche peut paraître similaire à la tienne, par exemple? Est-ce que tu connais personnellement Barefoot Yano?
Alors, pas personnellement, mais on s'est écrit quelques fois sur Messenger, quoi,
oui.
sur Facebook. Et puis, c'est vrai qu'on a une approche musicale qui est assez, assez proche, donc je trouve intéressant. J'ai hâte de le rencontrer. J'ai pas eu l'occasion encore de le rencontrer sur un festival.
Ah, c'est un personnage extraordinaire. Hein.
Oui, voilà, ça, je suis au courant.
Et puis, pour revenir un petit peu à l'harmonica, je voulais savoir, toi qui es également influencé par le jazz, est-ce que tu considérerais les deux harmonicistes que je vais te citer comme des modèles, des exemples ou des gens, voilà, qui font de belles choses, tout simplement? Alors, je parle de Jean-Jacques Milteau et de Greg Slapp.
Ah bah oui, c'est vraiment des modèles. En tout cas, Jean-Jacques Milteau, pour l'harmonica, ce qu'il a fait, c'était exceptionnel, d'arriver vraiment à amener l'harmonica en France quand tout le monde considérait que c'était un jouet encore.
Mm-hmm.
Et puis voilà, il est respecté pour ça comme harmoniciste aujourd'hui. Et puis Greg Slapp, voilà, c'est un musicien exceptionnel. C'est être capable de tenir comme ça les gens en public avec l'harmonica, c'est assez magique, ouais.
Est-ce qu'il y a une des deux carrières, elles sont pas terminées bien sûr, mais est-ce que ça pourrait constituer un modèle pour toi, par exemple Jean-Jacques Milteau avec toutes les collaborations qu'il a pu faire, ou Greg Slapp par exemple avec toutes ces années passées derrière Johnny Hallyday? Est-ce que c'est des choses qui te font rêver ou pas spécialement? C'est chacun sa route, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, de toute façon, oui, chacun sa route, mais en fait, on se place différemment, je pense, par rapport à l'harmonica, et parce que l'harmonica, c'est quand même un instrument, même si c'est un instrument soliste, c'est un instrument d'accompagnement. C'est rare qu'on va voir le concert pour l'harmoniciste, voilà, sauf pour des gens comme eux qui ont déjà une carrière derrière eux, en fait. Mmh. Mais moi, je me suis plutôt considéré comme un compositeur, un chanteur, donc en fait, la personne qui est devant.
D'accord.
Et du coup, j'ai pas mis forcément l'harmonica en avant. Tant que ça, parce que en fait, dès que je mets l'harmonica en avant, les gens commencent à m'appeler pour dire: ah, tu veux jouer dans mon groupe, tu veux jouer dans mon groupe. Et puis en fait, moi j'aime bien raconter ma chanson. J'aime bien aussi accompagner, évidemment, mais je préfère orienter ma carrière de cette manière-là, quoi.
D'accord, ouais, tout à fait. Je voulais te proposer, on est en direct, hein, rappelons-le, sur le 666, je voulais te proposer à Maurice faire un petit blind test. Il y a juste un morceau, comme ça, peut-être que tu vas reconnaître dans la seconde, ou pas, ça pourrait être amusant. Bon, tu es prêt?
Vas-y.
Alors, on écoute ça. C'est pas du blues, hein, je précise pour nos auditeurs.
C'est un truc français,
ça. Ça te parle?
C'est un truc français, non?
Ah, je... peux pas te dire.
Ah, c'est Mandoline Orange.
Ah là là, bravo. Mandoline Orange. Voilà.
Ah, ouais, j'adore ça. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait.
Ouais.
Mais avec tellement beau, quoi.
Avec le violon. On écoute quelques secondes, tiens, pour le plaisir.
It's like an old friend, kinder than expected. That Cadillac came and gave our girl a ride. Loss has no end, it binds to our connection. We don't speak of it, we don't even try.
Voilà, superbe duo, violon, guitare, et puis une voix qui m'évoque un petit peu un garçon qui s'appelle Nathaniel Radcliffe. Je sais pas si tu penses à ça aussi.
Non, je crois pas, non.
Non. voilà, tu les as rencontrés comment ces gens-là sur le net, j'imagine?
Ouais, en fait, par hasard, j'avais suivi une chaîne en fait qui organise des concerts dans les studios et puis ils étaient passés là.
Bah, tu sais qu'en même temps, il y a des gens qui réagissent sur le Facebook. Il y a toujours Ronan et Dom Ferrer qui sont musiciens également et qui ont tout de suite reconnu également, tout comme toi, Mandoline Orange. Voilà, apparemment, ça doit être une référence. C'est un extrait de leur concert Tiny Desk.
Moi, je trouve génial et puis c'est intéressant parce que quand je faisais cet album, justement, je suis tombé sur leur musique, donc je connais pas depuis très longtemps. Puis je me suis dit, il faut que je fasse un jour un album vraiment comme ça, carrément complètement bluegrass. Vraiment, parce que je trouve tellement pur et tellement beau en fait.
Avec un violon, comme faisait de temps en temps Dom Ferrer, justement, tiens, dans son groupe précédent, Carole's Cousin. J'ai une autre question qui va être un petit peu plus métaphysique pour toi, Maury. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, le passé, le présent ou l'avenir?
Ah, le présent.
Sans hésiter.
Sans hésiter. Ouais, ouais. Pour moi, c'est le fait d'être présent maintenant et le passé n'est plus là et le futur n'est pas encore là. Donc je trouve vraiment qu'on doit se concentrer sur ce qu'on est en train de vivre. C'est ce qui nous permet d'être placé d'une bonne manière pour diriger ta vie, en fait. Parce que sinon, on n'est que dans des prédictions et puis ça ne marche pas, quoi.
Comme disait Pierre Dac, hein, l'avenir, c'est du passé en conserve. Hein.
Un petit peu.
Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? On le sait maintenant, c'est le présent. Tu croques la vie, tu profites de chaque instant. C'est quelque chose dont tu as fait ta philosophie ou pas forcément? C'est juste en toi?
Alors oui, mais pas dans le sens de la jouissance à tout prix, de la consommation, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de méditation et puis de concentration, des choses comme ça. Je passe beaucoup de temps à ça, en fait. Et puis, j'ai dû faire ça aussi par rapport à mon fils Marius qui est hypersensible. Du coup, on a dû faire vraiment l'effort à la maison de calmer les choses, de prendre le temps. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bénéfique, en fait.
Quelle importance à tes yeux revêt le fait de se produire en concert, Amaury?
Bon, pour moi, c'est le principal, en fait. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire. J'aime aussi enregistrer, mais j'aime vraiment cette... je parlais de l'improvisation tout à l'heure, c'est ça qui me plaît, en fait. C'est qu'il se passe quelque chose, on est dans un lieu avec des gens, et tout d'un coup, il y a un échange, en fait, qui se produit. C'est ça que j'aime vraiment par-dessus tout.
Justement, tu parles d'enregistrement, le lieu d'enregistrement qui a été aménagé, ce fameux studio du Four, est-ce qu'il a été aménagé par tes soins, il me semble, hein?
Oui, c'est ça. J'avais acheté la maison, en fait, et puis j'ai aménagé tout le rez-de-chaussée en studio. Bon, il se trouve que j'ai vendu la maison, et puis j'ai gardé le studio. Mais voilà, je suis parti. C'était un vieux four à pain, je crois que ça s'appelle... Le studio du Four, c'était le rez-de-chaussée de la boulangerie du village, en fait.
C'est un petit village, donc, à côté de la ville de Vulbain, c'est ça, hein, si j'ai bien compris.
Oui, c'est Vulbain, ce village.
Ouais. Donc, ça veut dire, outre la musique, tu aimes travailler le bois. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec le travail manuel? Et plus profondément, est-ce que tu penses que organiser soi-même un lieu constitue une aide ou un besoin personnel?
Alors, pour moi, en fait, j'ai toujours bricolé. En fait, j'ai grandi dans une maison, donc on a toujours bricolé, quoi, avec mes parents... même chose, et puis c'est pas loin, en fait, je trouve, le travail de l'instrument et puis le travail manuel, c'est-à-dire qu'on apprend en bricolage n'importe quel outil. Quand tu l'utilises la première fois, on se rend compte qu'il y a vraiment une finesse dans le geste à obtenir avant d'arriver à ce qu'on veut. Et puis il y a toujours une part, en fait, entre la création, l'idée qu'on a, et ce qu'on arrive à faire. Et puis c'est ce travail-là que je trouve intéressant.
Ça veut dire que peut-être, dans un avenir proche ou lointain, tu pourrais devenir carrément luthier?
Je préfère la musique, parce qu'il y a ce côté d'échange. J'aime beaucoup le bricolage, mais c'est vrai que je voudrais pas bricoler, faire mon métier pour travailler chez quelqu'un. Et puis même la lutherie, j'aime bien quand je peux appliquer directement sur scène, vraiment pour arriver à... Voilà, et puis c'est pareil, ce studio, par exemple, je l'ai fabriqué. C'est un vrai studio, hein. c'est pas un home studio, c'est un vrai studio qui a une régie séparée. Mais par contre, c'est vrai que j'ai jamais eu envie d'en faire la publicité pour en faire un studio comme les autres, en fait.
Oui, mais toutes les semaines, quoi. Ce qui pourrait ne pas exclure d'y enregistrer des amis de passage, pourquoi pas? C'est déjà arrivé?
Oui, voilà, ça m'arrive, ouais.
Ouais,
ouais, ouais, à la demande, en fait, c'est sûr que ça m'arrive.
D'accord.
Quelques fois par année, ouais.
Bon, voilà, petit appel pour, je sais pas, Dom ou Ronan, enfin, les artistes qui nous écoutent, il y en a sûrement quelques autres. Je voulais savoir, tu évoquais tout à l'heure la création de l'album avec beaucoup de temps, évidemment, en 2020, comme beaucoup de gens en ont eu. Comment est-ce que tu vis cette parenthèse temporelle qui est imposée par la crise sanitaire depuis plus d'un an maintenant, à Maury?
Ben c'est très compliqué, surtout que je vois pas trop la volonté politique de faire un geste pour montrer que la culture est importante. C'est déjà quelque chose que dans l'air du temps un peu de qu'on entend, quoi, que les métiers de la culture, c'est pas des vrais métiers, des choses comme ça. Mmh. J'ai vu qu'il y avait, je crois, à Bordeaux, une campagne d'affichage officielle, quoi, par les autorités. La question, c'est être artiste, est-ce que c'est vraiment un métier ?
Oui, j'ai découvert ça ce matin, moi aussi, sur les réseaux sociaux. Artiste, est-ce un métier ? Point d'interrogation, viens en discuter. Il y a déjà une autre affiche qui est prête, où c'est marqué avec le même lettrage, la même couleur, et mon cul, c'est du poulet.
Oui, voilà. Ah. Ben, moi, ça me fait peur, parce que c'est... Ils vont nous faire croire que c'est un vrai débat, donc on pose la question, mais sauf que la question n'est pas à se poser. On pourrait poser la question, est-ce que boulanger, c'est un métier ?
Oui, mais
et
évidemment.
Puis on est constamment en face d'aberration, vraiment. Comme les gens qui disent, ah ben t'es musicien, tu peux jouer, ou quand c'est fini, ah ben tu vas-y, en faisant une. Mais, et alors que bon, le plombier, quand il a fini son travail, on lui dit pas, tu me refais pas un petit coup, là, parce que vraiment j'ai un truc en plus.
Ben c'est ça, oui, non, mais on peut tous être boulanger un petit peu à la maison. Je veux dire, des machines à pain, on en a jamais vendu autant. C'est un bon exemple, finalement. On peut s'improviser, effectivement, plombier, maçon, etc. On peut aussi s'improviser musicien, mais ça reste bien évidemment un métier. Enfin, je ne comprends même pas qu'on pose la question.
C'est important, quoi. Parce que là, on se rend compte, je trouve qu'on commence malheureusement à se rendre compte que ça fait un an qu'il n'y a pas de culture, et puis... Les gens deviennent très très durs, quoi. Parce que notre travail, c'est le but de relier les gens. En plus, il y avait la religion qui le faisait jusqu'à il y a un siècle, mais maintenant, il n'y a plus ça.
Oui.
Donc les gens sont vraiment très agressifs les uns vers les autres, et je pense que c'est notre travail d'essayer de mettre les gens ensemble. Donc si la culture se résume à des streamings, voilà, filmés, je trouve vraiment dommage, quoi.
On a un auditeur qui réagit sur le Facebook Sweet Home Chicago, Arnaud, qui met « Bon, nous aussi, on aime les concerts, alors tu viens quand chanter chez nous ?»
Eh bien, quand c'est possible.
Quand c'est possible, voilà.
Non, mais aussi, je ne sais pas dans quel coin il est, mais en tout cas...
Ben, en Normandie, comme ici, comme nous, comme nous au studio, voilà.
C'est, ben, la Normandie. C'est pas loin, la Normandie.
La Normandie, Genève, ouais, il y a quoi ? Il y a, allez, 55 minutes d'avion, hein, à tout
voilà,
passer.
C'est ça. Non, mais c'est sûr que moi, je cherche à faire le plus de concerts possible dès que ce sera possible. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de continuer en solo pour être très libre, en fait.
Mm. Qu'est-ce qu'il faut, ça sera ma dernière question à Maury, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à l'artiste, à Maury Fèvre, pour les mois à venir, finalement, en dehors du fait, bien sûr, on l'a bien compris, de remonter sur une scène, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter suite à la sortie de ce disque et puis à une reprise d'activité normale d'un artiste?
Moi, je pense un peu comme tous les artistes, quoi, d'avoir les moyens de faire partager notre passion et puis de faire vivre des choses aux gens. Et puis d'être en bonne santé, voilà.
Ouais, effectivement, la santé, ouais, tout à fait. Amaury, est-ce que, pour terminer, il y a une question que je ne t'aurais pas posée, que tu aurais aimé que je te pose et à laquelle tu voudrais répondre, juste là, maintenant ?
Ben, je ne vois pas, non.
On a fait le tour, c'est ça. On va conclure avec un nouveau titre extrait de cet album 2020, juste nous rappeler, nous redire comment et où on peut se procurer ton album, Amaury.
Eh bien, pour se le procurer, c'est amaurifèvre.com, c'est AmauryFevre.
Très bien. Ben, je vais mettre le lien sur le timeline du Facebook Sweet Home Chicago, et puis te souhaiter bon vent, bonne route, et on espère que tu vas remonter sur scène très très vite, tout comme les artistes qui piaffent d'impatience.
C'est super vraiment avec toi, et puis à très bientôt à tous.
Merci Amaury, à bientôt. Au revoir.
Au revoir. You mean
Mary May. Please answer the phone. Mary May. Please pick up your phone. But you let it ring, just like you don't give a shit about the one who calls. And if it goes like this, I'ma do something. For years you're going to regret. I'll call your dad and tell him about the man you see behind the bar. Mary May, you make a fool of me. Horns, and I can't go through the doors.
L'album s'appelle 2020, il est signé Amaury Fèvre, on peut le retrouver sur son site internet amaurifèvre.com. On revient au disque du mois, c'est toujours Little Bob et c'est la dernière place de cet album We Need Hope chez Very Cold, ça s'appelle Freedom.
Sometimes I feel need freedom, baby. Freedom. Sometimes I feel like a passionate man. Sometimes I feel like a desperate man. Sometimes I feel like a desperate man.
Little Bob qui va fêter le mois prochain ses 76 ans dans le département 76 et qui avait sorti son premier album en 76. C'était extrait de We Need Hope, disque du mois pour Sweet Home Chicago sur le 666. Merci encore à Amaury Fèvre pour cette belle interview de tout à l'heure qu'on pourra écouter bien sûr en podcast ou en Mixcloud. Je vous rappelle que également il existe la plateforme Sweet Home Chicago, en fait le site blues.radio666.com sur laquelle vous pouvez retrouver toute la liste des invités que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis des cadeaux, vous avez le magazine Soulbag, le magazine Blues Magazine qui est à gagner, puis également deux exemplaires de l'album vinyle 25 cm de Benoît Blueboy avec Nico Duportal, sorti en 2017, qui s'appelait À boire et à manger à Saint-Germain-des-Prés. Deux exemplaires de cet album vinyle 25 cm à gagner sur le site internet de l'émission blues.radio666.com. 1977, c'est juste l'année d'après, voilà, Johnny Winter. Peut-être un des premiers albums de blues que j'ai pu écouter à l'époque où Johnny Winter s'occupait de la carrière de Muddy Waters. Il avait également sorti ce Nothing But The Blues qui est un album absolument mythique que j'ai racheté 20 ans après en CD, que j'ai toujours et que je vais vous faire écouter. On va en profiter tout de suite avec ce TV Mama, monsieur Johnny Winter.
Turn my TV on. You know, I say get on, black people, but I believe my tube is wrong. Well, my baby, she was crying. Want me to get my TV fixed? Oh, she was crying. Want to get my TV fixed? She needed mighty quick. Right away now. Well, I called the TV doctor. He came over right away. He said to see what he can do. He had to haul my TV away. I told him no. Damn well, I'll never do. Man, if you don't get the picture, I'm gonna do some work on you. Thank you.
Eh oui, bien sûr, Nothing But The Blues, c'était le mythique album de Johnny Winter sorti chez Blue Sky en 1977. Puis Johnny Winter qui avait présidé au destiné de la fin de carrière de Muddy Waters jusqu'à ce dernier album qu'il avait enregistré en 1981. Ben voilà, ça nous ramène au début, non pas du blues, mais peut-être à vous aussi, ma découverte de cette musique qui continue à occuper nos têtes et nos esprits jour et nuit. Voilà, Sweet Home Chicago, c'est bientôt la fin. Juste après, vous retrouverez l'émission de Dan Zirotti qui s'appelle Moonshine Blues. Ça sera le numéro 8 à partir de 15h, toujours sur cette même antenne. Et nous, on va se séparer avec la rubrique 50 Years After. On revient en 1971, figurez-vous, avec Freddie King. Ça s'appelle Same Old Blues. C'est tiré de l'album Getting Ready chez Shelter. C'est à l'époque où il enregistrait pour Léon Russell. Freddie King, salut. Bye bye. Et vous restez à l'écoute, bien sûr.
Staring at